3. Notre passage se trouve en Matthieu chapitre 17. Et Matthieu chapitre 17, on va lire les 9 premiers versets. On va parler sur le fait d'atteindre notre sommet spirituel. On va laisser sortir, je veux dire, les enfants, mais il y en a un. Mais au moins, il y en a un, c'est bien. Matthieu chapitre 17, verset 1er. On va voir le contexte dans un instant, mais il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Quand on parle de sommet, pour nous un sommet spirituel, mais quand on parle de tout le monde veut atteindre des sommets. Hein, on fait souvent allusion, même dans le monde contemporain, le fait d'atteindre des sommets comme une marque de réussite ou de succès. Hein, c'est un chanteur ou un acteur qui part absolument de rien, puis réussit, devient un chanteur à succès, les top ventes, etc. On dit souvent qu'il a atteint les sommets de la gloire. Et on fait parfois référence d'avoir atteint des sommets dans notre vie pour parler des moments clés de notre vie, des moments importants, des moments positifs qui ont changé le reste de notre vie. Pour certains, c'est le moment où ils ont passé le bac, par exemple, ou le moment qu'ils se sont mariés, ou encore quand ils ont enfin eu le travail, le boulot qu'ils recherchaient tant. Mais ce qui serait considéré comme une expérience d'avoir atteint des sommets pour quelqu'un, le serait peut-être pas pour un autre. C'est les sommets dans notre vie, comme les montagnes, existent de toutes les tailles et de toutes formes imaginables. Une expérience hors du commun pour vous, qui est très riche en émotions et valeurs, pour vous ne le sera pas nécessairement pour quelqu'un d'autre qui aura vécu exactement la même chose. Comme là récemment, notre fille a pu acheter sa toute première voiture. Et elle attendait ça avec anticipation. Puis moi-même, je me rappelle de la toute première fois que j'ai pu acheter avec mon argent ma toute première voiture. C'est une expérience pour moi qui était un sommet. J'ai atteint quelque chose. J'ai un travail, j'ai une voiture, je suis arrivé quelque part, c'est un sommet, quelque chose que j'attendais. Mais depuis, j'ai acheté une deuxième, une troisième, une quatrième voiture. Et ces voitures, à chaque fois, m'apportent une joie, mais pas comme la première. Et parfois, nous faisons la même chose avec notre vie spirituelle, notre nourriture spirituelle. Nous lisons notre Bible, nous éprouvons même de la joie à la lire, mais quelques circonstances plus loin, nous oublions plus facilement ce que nous avons lu, nous oublions les promesses de Dieu, alors qu'avant, on tenait cette Bible entre nos mains et on la chérissait vraiment. Personne et rien ne pouvait faire en sorte qu'on oublie ce qu'on venait de lire. On les gardait proches de notre cœur. Mais quelque chose est arrivé, le temps est passé, les choses que nous considérions comme auparavant comme quelque chose à sommet est devenu maintenant quelque chose d'un peu plus banal. On n'est plus sur la montagne, on n'est plus sur ce sommet profitant pleinement de notre communion avec Dieu. On est, pour ainsi dire, redescendu dans la plaine, là où le doute et l'insécurité règnent plus facilement. Pourtant, il nous faut savoir comment rester sur cette montagne. Oui, les disciples, même ici dans notre passage, n'y sont pas restés sur cette montagne non plus. Mais En Matthieu 16, dans le chapitre juste avant, nous voyons Pierre répondre à la question de Christ quand Christ lui demande: Qui dites-vous que je suis? Christ avait déjà demandé: Qu'est-ce que les autres disent que je suis? Ils ont répondu: Les uns disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres ceci. Mais ensuite, Christ se tourne vers ses propres disciples, ceux qui devraient le connaître le mieux que quiconque à ce moment-là. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et à cela, Pierre répond: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus continue en disant à Pierre que cette connaissance, cette compréhension ne venait même pas de lui, mais c'est une bénédiction qui est venue du Père qui le lui donna. Et les versets suivants, Jésus va parler de sa mort, de sa résurrection. Et c'est après cela, le verset premier de notre passage en Matthieu 17, il dit 6 jours après. 6 jours après ces événements-là, nous voyons ce que nous appelons la transfiguration. Transfiguration, ça veut tout simplement dire le changement d'apparence physique de Christ qui se montra revêtu de gloire à ses trois disciples. La Bible, ce passage nous dit qu'il a changé son apparence de son visage et même de ses habits pour un instant, pour un moment spécial, pour une raison spéciale. Et dès qu'il redescend de cette montagne, les choses reprennent. On relit le reste du chapitre 17, pardon, et on voit Jésus recommencer là où il s'est arrêté. Il se remet à guérir, il parle de nouveau de sa mort, de sa résurrection, et il continue à enseigner. Et mais dans notre passage de Matthieu 17, Pierre, Jacques et Jean ont eu une expérience spéciale, qui, à mon avis, une expérience qu'ils n'ont jamais oubliée le restant de leur vie. Jésus s'est révélé à eux d'une façon personnelle et spéciale. Et on peut comprendre comment cette expérience va changer leur relation, la façon qu'ils vont voir Christ et même la relation entre eux. Ces trois disciples ont eu une expérience que les autres 9 disciples n'ont pas eue. Et les trois vont pouvoir en parler alors que les autres 9 ne sauront pas de quoi ils parlent. D'ailleurs, ils n'avaient même pas le droit d'en parler jusqu'à ce que Christ ne soit ressuscité, le verset 9 nous dit. Mais le fait est, les disciples ont fait trois choses lors de cette transfiguration que nous pouvons, nous, aujourd'hui, faire aussi pour nous aider à avoir une communion hors du commun avec Dieu, comme ils ont eu. Pas d'avoir cette transfiguration nous-mêmes, pas de voir ce changement comme ils ont eu, mais d'avoir une communion spéciale. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont laissés conduire par Christ. Et nous devons nous aussi nous laisser, nous devons laisser Christ nous guider. Le verset premier nous dit: Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. L'idée d'aller sur la montagne ne venait pas des disciples. C'est Jésus qui a dit d'aller là-haut. La Bible précise même, à la fin de ce verset premier, que c'est une haute montagne. Ah, ce n'est pas une petite colline, ce n'est pas une marche facile, c'est une marche qui va prendre du temps et de l'effort. Pourtant, nous ne voyons pas les disciples râler ou essayer de marchander pour trouver une autre solution, quelque chose de plus facile et de moins fatigant. Ils disent pas: mais pourquoi est-ce qu'on doit aller en haut de la montagne? Pourquoi ne pas aller juste au pied de la montagne, à l'écart des autres? Ça devrait être suffisant. On voit aucun marchandage de la part des disciples. Ils ont obéi. Remarquez aussi que Jésus ne leur dit pas ce qui va se passer. On voit nulle part où Christ leur dit: on va aller en haut de cette montagne et voici la raison de pourquoi on va le faire. Voici ce qui va arriver. Vous allez faire l'expérience de quelque chose de spécial et d'unique. Il ne dit rien de cela. Il ne dit pas ce qu'il a prévu. Et nous ne voyons pas les disciples faire comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand Christ leur dit quand Dieu leur dit de faire quelque chose, et on voit les chrétiens d'aujourd'hui dire: pourquoi? Mais pourquoi? Explique-moi pourquoi est-ce que je dois faire l'effort de grimper cette montagne. Il dit, on doit accepter de le suivre. Christ et Dieu n'a pas obligé de nous expliquer le pourquoi de la chose. Parfois, il le fera. Mais très souvent, il ne trouvera pas le besoin de le faire non plus. Il voudra tout simplement qu'on l'obéisse. Il y a déjà quelqu'un à côté s'il veut venir. Et on va laisser passer Ziadis, parce qu'on sait qu'il aime bien sa classe. Et Suzanne, elle est là.
Salut,
Merci. À tout à l'heure. Salut Rigia. Donc, juste pour récapituler, on est en Matthieu chapitre 17, on est en train de parler de la transfiguration. Et la première chose que les disciples ont fait, que nous devons apprendre à faire, c'est de laisser Christ nous guider. Peu importe si c'est comme ici, faire l'effort de grimper une haute montagne, peu importe s'il ne nous donne pas les raisons du pourquoi on doit monter là-haut et faire cet effort, on doit être rapide à dire « oui Seigneur » et non rapide à dire « mais pourquoi Seigneur ?» Et ça devrait être une chose si simple, mais je crois que c'est quelque chose qui est, c'est l'endroit qui est très souvent là où les chrétiens ont du mal à obéir. C'est quelque chose qui doit être si simple que de dire « oui, je suis prêt à suivre Christ, oui, je suis sauvé, je suis reconnaissant du salut qu'il me donne, je sais qui il est ». Ça devrait être facile de nous laisser guider par Christ, et c'est l'endroit où la plupart des chrétiens chutent et n'obéissent pas. De laisser Christ nous conduire, laisser Dieu choisir ce que nous devons faire. Comprenez-vous vraiment ce que ça veut dire quand on chante le chant de temps en temps de « entre tes mains j'abandonne ». Et est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on est en train de chanter au Seigneur quand on dit cela? Est-ce que nous avons vraiment l'habitude de laisser tout entre ses mains? Ce que beaucoup de chrétiens font, ils vont aller dans la prière dans le but de dire « Seigneur, je mets ça entre tes mains », mais pas vraiment. Parce que dès qu'ils ont fini de prier, dès qu'ils disent « Amen », ils reprennent les choses dans l'ordre. Ils se disent « qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux régler la situation ?» Qu'est-ce que je, au lieu de dire « Seigneur, je l'ai laissé entre tes mains », ça veut dire que maintenant je dis « que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux ? Comment veux-tu que je fasse face à cette situation ?» C'est entre tes mains et non entre mes capacités. Est-ce que nous faisons vraiment le choix dans notre vie de laisser Dieu choisir ce qu'il y a de meilleur pour nous ? Imaginez que les disciples, pour ici Pierre, Jacques et Jean, qu'ils auraient parlé à Jésus de la même manière que souvent nous parlons à Dieu aujourd'hui. Christ dit, venez, montons sur cette haute montagne, sans d'autres explications. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont dit, oh non, 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 pas aujourd'hui, ça ne me convient pas. Peut-être demain. Je suis trop fatigué, alors on vient de marcher beaucoup, ou sinon allez-y sans moi. Vous deux, vous y allez, moi je reste là. Mais qu'est-ce qu'ils auraient raté? Il n'y a jamais eu d'autre moment que nous connaissons, il n'y a pas d'autre témoignage dans la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une autre transfiguration, à un autre moment où Christ s'est révélé de cette manière-là à ses disciples, à aucun autre moment. C'était un moment unique. S'ils allaient rater ça, ils l'auraient raté pour le restant de leur vie. Ils ont fait une expérience spéciale et spécifique et unique. S'ils avaient l'attitude qu'on a aujourd'hui, oui, je me laissais guider, je laisse Christ prendre les décisions, mais si ça ne me convient pas, j'ai envie de dire non. Ils auraient raté une expérience qui a pourtant marqué le restant de leur vie. Mais pour nous aujourd'hui, combien de fois est-ce que nous avons raté, justement, des bénédictions spéciales de notre Sauveur parce que nous avons refusé de le suivre? Nous avons raté ce que Dieu avait prévu pour nous parce qu'on s'est entêté de faire les choses à notre façon. Parce qu'on s'est dit, j'étais trop fatigué. Oh, je ne dis pas non entièrement à ta volonté, Seigneur, mais là, je n'ai pas envie. Combien de fois est-ce que, oui, notre paresse ou parfois notre peur nous a poussé à ne pas suivre Christ sur la montagne et on a décidé, on a choisi de rester dans la vallée. Donc, loin de la volonté, loin de sa communion. Je suis obligé de vous demander, que faites-vous avec votre vie? Quelle est votre raison de vivre? Quel est votre but dans votre vie? Avez-vous même pensé et réfléchi à ce que Dieu voulait que vous fassiez? Ou est-ce que vous incorporez Dieu dans les endroits où vous n'avez pas déjà, vous, fait des plans, des projets pour votre vie? Avez-vous pris le temps de considérer et demander à Dieu ce que lui voudrait faire avec et à travers vous? Pas juste de temps en temps, mais avec votre vie entièrement, chaque jour. Est-ce que vous avez vraiment eu un moment où vous avez dit, Seigneur, oui, je veux te suivre. Je suis à toi. Pas seulement en partie, pas seulement parfois, mais je suis tout à toi. Si vous ne voulez pas suivre Christ, alors répondez à qui êtes-vous en train de suivre? Vous connaissez peut-être le passage en Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, qui nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cette petite phrase, ce n'est pas juste une phrase de dire si Dieu le veut, mais c'est toute l'idée qui est derrière. Le fait que je dise si Dieu le veut, on le fera, ça veut automatiquement impliquer, bah, si Dieu, ce que j'ai planifié et tu ne le veux pas, bah, je suis prêt, moi, à changer pour être conforme à ta volonté. Je fais des projets, il n'y a rien de mal. Je fais des plans, il n'y a rien de mal. Tant que j'incorpore Dieu dans ses plans et dans ses projets, avec cette mentalité, de dire, si ce n'est pas ta volonté, je n'ai aucun problème à dire non et de changer selon ce que tu me montres. Parce que c'est toi que je veux suivre. Ce n'est pas juste moi et mes plans, mes projets, ma volonté. Alors, qui allez-vous suivre? Quels sont vos projets pour la vie? Est-ce que Dieu a vraiment une place dans votre futur, dans votre vie, dans vos décisions? Et pas juste une place, mais on sait que Dieu ne se satisfait pas d'un pourcentage de notre cœur, un pourcentage de nos choix, un pourcentage de notre vie. Dieu veut tout ou rien. Il ne veut pas ce compromis entre les deux. Alors, si nous pouvons et devons prendre exemple sur les disciples, ils ont accepté de suivre Christ. Et parce qu'ils ont fait ce choix, ils ont pu avoir cette deuxième chose que nous devons faire. Ils ont pu voir Christ pour qui il est. Et nous devons voir, nous, voir Christ pour qui il est, nous aussi. Verset 2, il dit, une fois qu'ils ont monté sur cette montagne, verset 2, il fut transfiguré devant eux, c'est-à-dire son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On doit comprendre que nous aussi, on doit voir Christ pour qui il est, et non comme le monde le présente, et non comme nos émotions le voient. Les disciples ont pu voir Christ comme jamais auparavant à ce moment-là. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient vu Christ jusqu'à présent faire maintes choses, des choses qu'ils n'ont vu personne d'autre faire. Ils l'ont vu guérir les infirmes et voir le boiteux qui marche. Ils ont vu guérir l'aveugle. Celui qui est aveugle de naissance, qui maintenant voit de nouveau, ben, tout court, ils l'ont vu avoir puissance sur la nature et calmer les tempêtes avec simplement sa voix. Ils l'ont vu donner à manger à 5 000 et plus avec juste quelques pains et poissons. Ils ont même vu faire revivre les morts. Ils l'ont vu guérir les gens de la lèpre. Ils l'ont vu faire des choses prodigieuses et miraculeuses, mais jamais ont-ils vu Christ comme il était en train de se présenter, de se montrer, de le voir sur le sommet de cette montagne. Et je crois que jamais allaient-ils regarder à Jésus exactement de la même façon à partir de ce moment-là non plus. Alors, pour le revenir à nous, quand vous entendez le nom de Jésus-Christ, à quoi pensez-vous? Qui est-il? Pour reprendre les questions que Christ a posé à ses propres disciples, le chapitre juste avant, Matthieu chapitre 16, verset 13, il nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, il se retourne vers ses disciples, il dit, Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, si quelqu'un vous demandait la même question aujourd'hui, qui est Christ pour vous? Qu'est-ce que vous leur répondriez? Est-ce que vous direz, ben, la Bible dit, ou est-ce que vous aurez une réponse plus personnelle? Pour moi, Christ, il est ceci, il est cela. Est-ce qu'il pourrait voir la relation, la communion personnelle que vous avez avec Christ? Ou est-ce que ce serait une réponse un peu vide? Pour pouvoir donner une bonne réponse, il faut savoir soi-même qui Christ est et le voir pour qui il est, pour de le voir tel qu'il se présente. Même dans la réponse que Pierre donne, il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit bien le. C'est, à part lui, il n'y en a pas d'autre. Christ, ça veut dire sauveur, celui qui nous délivre pour nous de nos péchés. Il est le Messie, celui qui était promis par Dieu lui-même. Il est le Fils du Dieu vivant, pas un des fils, le seul et unique. Pas un messager, mais une partie de Dieu lui-même mis sur terre. Permettez-moi de vous lire plusieurs passages les unes après les autres. Sur de quelle manière, parce que comment pouvons-nous voir pour Christ, pour qui il est, si ce n'est qu'en voyant de quelle manière Christ se révèle à nous. Nous ne pourrions jamais savoir qui est Dieu, qui est Christ, de par notre propre entendement, notre propre sagesse. Il était obligatoire que Dieu se révèle et que Christ se révèle pour que nous puissions comprendre qui il est réellement. Et voici ce que Christ se dit de lui-même. Le premier passage, je vais les lire pour vous, en Jean chapitre 1, versets 5, 1 à 5, dès que j'arrive à trouver mon passage. Passage bien connu pour beaucoup des chrétiens. Jean chapitre 1er, verset 1er, dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais avec cela, on doit rajouter le verset 14, qui nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc en parlant de Christ, il est cette parole qui a été promise. Il était cette parole qui était depuis le commencement. Il est cette parole qui a été faite chair et a vécu parmi nous. On pourrait prêcher sur chacune de ces passages, mais laissez-moi continuer à lire ce que Christ dit de lui-même. En Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Autrement dit, je suis la seule personne qui peut vous rassasier, qui vous combler de vos besoins spirituels. Personne d'autre. Je suis le pain de vie. Verset 38 dans ce même passage. Car je suis descendu du ciel. Autrement dit, je suis divin. Je suis Dieu. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Les versets 47 et 48 de ce même passage. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Encore une fois. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on a déjà parlé de cette lumière dans le passé. Tout ce que la lumière fait, la manière qu'elle éclaire, qu'elle révèle ce qu'il y a dans l'obscurité, qui nous aide à voir ce que il ne serait pas possible de comprendre sans la lumière, sans voir. Il dit, je suis la seule lumière qui peut nous aider à comprendre et voir notre vrai besoin spirituel et la réponse à ce besoin. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Toujours dans Jean chapitre 8, versets 23 et 24, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, il dit même pas, si vous ne croyez pas ce que j'ai fait, si vous ne croyez pas ce que je suis, qui je suis, qui est Christ, voilà la clé, voilà la différence. Parce que ces œuvres ne valent rien si on ne comprend pas qui il est d'abord. C'est à cause de qui il est que sa mort sur la croix est importante et a de la valeur. Verset 28, toujours dans Jean chapitre 8, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, le Sauveur, le Messie, le Rédempteur, que je n'ai fait rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il englobe toutes les passages où il se révèle pour qui il est dans ce seul verset. Je suis. Il n'y en a point d'autre. C'est pas je suis en partie, je suis une partie, Je suis le tout, l'entier, le seul, le suffisant. En part moi, il n'y en a point d'autre. En Jean chapitre 10, verset 7 et ensuite 29, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Et il donne cette assurance. Il dit, il dit pas, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il peut espérer être sauvé. Ou s'il fait encore autre chose, au-dessus de cela, il peut espérer être sauvé. Non, je suis la porte. S'il entre par moi, il n'y a pas d'autre solution que d'être sauvé. Versets 10, 11 et 30 de ce même chapitre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi et le Père, nous sommes un. Qui est Christ pour vous? Christ se révèle de tellement de façons. Il ne cache pas qui il est. Il ne cache pas ce qu'il fait. Nous devons voir Christ pour qui il est, non comme le monde essaie de le représenter. Jésus s'est révélé de façon spéciale sur cette montagne à ses trois disciples, mais Christ se révèle de façon extraordinaire à travers les Écritures, de Genèse jusqu'en Apocalypse. On peut voir l'empreinte de Jésus-Christ dans chaque livre. Si nous voulons bien prendre le temps de le voir pour qui il est, tel qu'il se présente, alors je vous repose la question. Qui est Christ pour vous? Si quelqu'un vous demandait cette question, qu'est-ce que Christ pour vous? Qu'est-ce que vous le répondriez? Jean chapitre 12, versets 46 et 47. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut venir au Père par les œuvres. Nul ne vient au Père que par Christ. Nul ne peut venir au Père par les traditions, nul ne peut venir au Père par autre chose, autre personne qu'à travers le Christ lui-même. On aurait pu partager d'autres passages comme dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5, il parle, vous, je suis le cep, vous êtes le serment, sans moi, vous ne pouvez rien faire. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16, où il parle du fait que je suis saint. Je suis parfait, je suis pur, je suis sans tache, je suis sans péché. Et bien entendu, en Apocalypse 1,8, même les inconvertis connaissent le passage où il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. De quelle autre façon est-ce que Christ doit se révéler à nous pour que nous puissions répondre quand les personnes nous demandent, qui est Christ pour toi? Il est tout pour moi. Sans Christ, je ne suis rien. Sans Christ, je n'ai aucune assurance. Sans Christ, je n'ai aucune espérance. Sans Christ, je n'ai pas de foi en qui placer ma foi. Sans Christ, je suis perdu. Mais en plus de cela, j'ai un ami, j'ai un berger, j'ai un Dieu qui m'aime. Et je pourrais continuer pour montrer à quel point ce Christ est un Dieu, est une personne personnelle. Mais qui est Christ pour vous? Parce que là, les trois disciples, ils ont accepté de suivre Christ sans savoir ce qui allait se passer. Ils ont vu Christ se révéler d'une manière extraordinaire qu'il n'a jamais fait auparavant. Et nous aussi aujourd'hui, on doit accepter pas seulement de le suivre, mais de le voir pour qui il est. Quand nos propres émotions voudraient mettre en doute ses promesses, quand les circonstances voudraient s'accabler pour nous faire oublier qui il est. On doit se rappeler que Christ est tout et Christ est tout suffisant. Il faut se rappeler de quelle manière Christ se révèle à travers les Écritures pour nous. Jésus continue à vous dire, viens, suis-moi. Viens avec moi sur la montagne. Je suis le chemin, suis-moi. Je suis la vérité, crois-moi. Je suis la vie, tout autre chemin te mènerait à la mort éternelle. Viens, suis-moi. Je suis le bon berger. J'ai même donné ma vie pour que nous puissions avoir cette communion. Ne te détourne pas de moi. Viens et suis-moi. Pierre, Jacques et Jean ont suivi Christ en haut de cette montagne. Je crois qu'ils n'ont jamais regretté d'avoir choisi d'obéir. Ils n'ont pas regretté de l'avoir suivi. Ils ont vu Christ comme jamais auparavant. Ils ont fait une expérience unique, spéciale, qui a dû rester gravée dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils ont encore fait une troisième et une dernière chose alors qu'ils étaient sur cette montagne. Regardez les versets 4 à 8. Il faut que je retrouve mon passage encore une fois. Matthieu 17, versets 4 à 8. Dit Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous. N'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Avez-vous remarqué ce qu'ont fait les disciples? Pierre, voyant qu'ils étaient dans une situation bien spéciale, il a compris que c'était un privilège que de pouvoir assister à cette scène. Il proposa d'installer des tentes pour y rester plus longtemps. On peut comprendre. Mais que dit Jésus au verset 5? Celui-ci, ou pas Jésus, mais Dieu le Père qui parle, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous avez remarqué, il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, voici Jésus est mon fils, respectez-le, on doit le faire. Ce n'était pas l'accent. Il n'a pas dit, Jésus est mon fils, honorez-le, on doit le faire, mais ce n'est pas où l'accent est mis. Il ne dit pas, Jésus est mon fils, glorifiez-le. Il a dit, écoutez-le, écoutez-le. Écoutez-le, c'est bien plus que juste entendre. C'est d'entendre avec la volonté de mettre en pratique. Écouter, c'est de vouloir entendre pour obéir et ne pas mettre en doute et ne pas oublier. À quoi bon reconnaître que Jésus est Dieu si on ne va pas l'écouter? À quoi bon dire que Jésus est le bon berger si on ne va pas le suivre? Jean chapitre 10, versets 3 à 5, il dit, Le portier lui ouvre et ses brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. À quoi bon dire que Jésus est notre maître si on refuse de le servir? À quoi bon dire que Jésus Et le chemin, la vérité et la vie, si nous traçons notre propre chemin, si on trace notre propre voie et nous choisissons de croire nos propres vérités, nous refusons la vie éternelle en Jésus-Christ. À quoi bon? À quoi bon reconnaître Christ pour qui il est, si ce n'est pas pour écouter ce qu'il a à nous dire? Oui, on doit l'honorer, oui, on doit le respecter, oui, on doit le glorifier, mais on le fait à travers le fait qu'on l'écoute. Qu'on ne se satisfait pas d'entendre sa parole, d'entendre ses prédications, d'entendre sa volonté, mais on écoute avec la volonté avant de savoir ce qu'il va dire, qu'on va l'obéir. Et non de faire comme beaucoup d'entre nous, d'entendre ce qu'il a à dire pour savoir si on va obéir après. Seigneur, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu vas dire. D'ores et déjà, avant que tu parles, je suis prêt à obéir. Dis-moi ce que tu veux me dire. J'écoute. Parle car ton serviteur écoute. Ça veut dire parle parce que ton serviteur est prêt à obéir. Pour conclure, la logique serait également de dire à quoi bon l'écouter, n'est-ce pas, si ce n'est pas pour l'obéir? À quoi bon l'écouter si c'est pour mettre en doute ce qu'il va nous dire, si ce n'est pas pour croire que ce qu'il nous dit est la vérité? Pourquoi l'écouter si ce n'est pas pour mettre en pratique ce qu'il va nous dire? Si vous n'allez pas écouter Christ, si vous n'allez pas accepter ce que vous enseigne la Bible, alors en qui allez-vous croire? Qui allez-vous suivre? Qui allez-vous écouter? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Placez votre foi en Christ. Si vous ne l'avez pas encore reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors écoutez au moins ce que Christ a fait pour vous. Écoutez de quelle manière Christ se révèle à vous. Écoutez que, oui, Christ sait que vous êtes pécheur. Oui, Christ sait que vous méritez la mort. Oui, Christ sait que vous méritez d'aller en enfer. Chacun d'entre nous, il n'y a pas la moindre personne sur cette terre qui n'est pas née, qui ne mérite pas d'aller en enfer. Et Christ dit, je vous aime à cause de qui je suis, pas à cause de qui vous êtes. Vous avez de la valeur parce que je suis mort pour vous, pour votre péché. Écoutez qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la porte par laquelle il n'y en a pas d'autre pour vous donner la vie éternelle. Pas parce que vous le méritez, mais parce que je vous aime. Ça s'appelle la miséricorde et la grâce. Et je veux vous sauver. Je suis le Fils de Dieu. Écoutez-moi. Dieu le Père dit, voici mon Fils. Écoutez-le. Il est mort pour vous. Il n'y a pas d'autre salut qu'en lui. Si vous êtes déjà sauvé, est-ce que vous continuez à l'écouter? Vous l'avez écouté pour votre salut, ben gloire à Dieu. Mais est-ce que vous continuez à l'écouter? Quand Christ parle à votre cœur, il dit, je veux que vous me serviez à temps plein. Je veux que tu témoignes pour moi. Je veux que tu sois un témoignage parmi tes voisins. Je veux que tu parles aux autres de qui je suis. Quand tes collègues au travail te demandent, mais qui est Christ pour toi? Que tu sois rapide à dire avec joie, ben laisse-moi te dire, Christ est tout pour moi et voici pourquoi. C'est quand nous refusons de le suivre, quand nous choisissons de suivre notre propre chemin, que nous nous créons plus de problèmes. Mais Fred, lui faites-vous vraiment de la place dans votre vie pour écouter la parole de Dieu. Je vais vous demander, même si on est un peu en avance aujourd'hui, c'est un peu plus court que d'habitude, mais je vais vous demander de prendre le temps de fermer les yeux et de donner le temps de parler au Seigneur.